molécule continue de défier les lois de la chimie et de la physique. C'est une molécule aux propriétés très étranges, ce monoxyde de dihydrogène. Un puissant acide capable de dissoudre de nombreux liquides. Elle est moins dense sous sa forme solide que sous sa forme liquide. Elle provoque la corrosion et la destruction de la plupart des métaux. Et, plus étrange encore, le sevrage complet de monoxyde de dihydrogène conduit les êtres vivants à une mort certaine. Certains lui prêtent même une mémoire. Bref, au lendemain de la journée mondiale qui lui est consacrée, nous allons parler de l'histoire de l'eau. L'eau, une histoire trouble, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour s'immerger dans cette longue et mystérieuse histoire, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bertrand Guillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physico-chimiste, directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à l'université Pierre et Marie Curie. Et nous accueillons également avec plaisir Nicolas Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé au sein du département chimie de l'École normale supérieure, rattaché au pôle de physico-chimie théorique. Vous pouvez, comme chaque jour, suivre cette émission en parallèle sur le fil Twitter de l'émission @laméthodeolfc, mais ce n'est plus besoin de le préciser, vous le savez maintenant. Alors pour commencer, eh bien j'avais envie de commencer aujourd'hui par une question qui est exactement à l'image de notre sujet du jour. Très très simple en apparence, mais très très compliqué au fond. Comment expliquer que ce liquide primordial qui est partout autour de nous, comment expliquer qu'il recèle encore autant de mystères, Bertrand Guillot ?
Oui, il recèle des mystères. Bon, il se trouve quand même qu'on a déjà exploré beaucoup de ces secrets. Et donc aujourd'hui, effectivement, la physico-chimie et théorique expérimentale a permis effectivement d'approfondir beaucoup de phénomènes qu'on considérait comme effectivement étranges. Mais peut-être on peut faire un petit retour historique. De voir un petit peu comment les propositions théoriques sont arrivées historiquement.
C'est ce qu'on va faire dans un instant, mais je pose la même question simple et si compliquée à Nicolas Lévy avant cela.
Sur la structure de l'eau, on a beaucoup avancé sur le siècle précédent. On est maintenant sur d'autres défis. C'est plutôt des défis qui sont liés à la solvatation. C'est-à-dire que comment l'eau interagit avec c'est les éléments qu'elle entoure, classiquement. Et c'est ça qui la rend finalement passionnante sur ce point-là.
Eh bien, on va examiner ces deux aspects et bien d'autres au cours de cette heure. On va effectivement, comme vous le suggériez, Bertrand Guillot, commencer par une histoire, puisque au début, je parlais de liquide primordial. Au début, l'eau, depuis l'Antiquité, l'eau est l'un, pendant très longtemps, jusqu'au temps quasiment moderne, l'eau est l'un des quatre éléments, parfois six, en fonction des cultures. On pense que c'est un élément, une brique de base de la nature, du monde.
Oui, et surtout, c'est le seul liquide finalement qu'on voit vraiment dans la nature partout. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, technologiquement, on fabrique de nouveaux liquides qui sont très très différents de ce liquide-là. Donc, ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que finalement, ils avaient eu des intuitions géniales. Par exemple, Lucrèce, qui était donc un philosophe latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc il était un atomiste, un adepte d'Épicure. Donc, lui a été le premier à avoir une vision théorique de la structure de la matière au niveau atomique. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est l'atome de Démocrite, etc. Et donc, il voyait très bien, il suggérait que la matière était faite d'atomes, c'est-à-dire de particules insécables, et qui étaient en permanence en mouvement, ce qui était très important, ce qu'on appelle le clinamen. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'il trouvait que ces atomes pouvaient être ronds, ils pouvaient être pointus et ils pouvaient avoir des petits crochets. Et il expliquait, par exemple, l'évaporation de l'eau sur le corps, simplement par le fait que les atomes étant accrochés par ces petits crochets, effectivement, se décrochaient et partaient dans l'atmosphère. C'est une vision pénétrante absolument extraordinaire pour des gens qui n'avaient aucun moyen pour étudier la structure de la matière à cette époque-là.
Oui, c'est l'intuition assez dingue, hein, on va le voir,
c'est
l'intuition
Absolument, c'est l'intuition atomique, mais en plus, en voyant effectivement que le fait que les atomes étaient très ponctuels et qu'il y avait beaucoup de vide, que la matière était remplie de vide.
Nicolas Lévy.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est quand il a fallu presque attendre 1500-2000 ans pour avoir à nouveau ce même schématisation qui a été repris au 19e siècle, avec ses crochets, etc. Et ça a aidé les gens comme Dalton à démarrer, en fait, sur la structure de l'eau d'un point de vue atomique.
La révolution, c'est pendant très longtemps. Hein, on n'en sait guère plus. Alors, à quelques rares exceptions près, on ne va pas rentrer ici dans le détail. La vraie révolution, c'est Lavoisier, 18e siècle.
C'est Lavoisier du 18e siècle, mais je dirais quand même que il n'y avait pas encore de moyens de pouvoir étudier la structure de la matière, donc ça reposait sur des concepts qui étaient quand même des concepts presque philosophiques. Il se trouve que c'est vraiment à la fin du 19e et au début du 20e siècle que, avec l'avènement par exemple des rayons X et de ces certains types d'expériences, qu'on a pu mettre en évidence par exemple différentes phases de la glace. Par exemple, Bridgman, pratiquement dans les années 1900-1910, a découvert effectivement plusieurs phases différentes de la glace que celles que l'on trouve simplement lorsqu'il fait froid l'hiver. Et puis ensuite, il s'est passé un certain temps avant qu'on commence à étudier la molécule elle-même. Et c'est uniquement dans les années, fin des années 1920, début des années 1930, qu'on a effectivement identifié la forme de la molécule et qu'est-ce qui allait en déduire.
Ce qui est intéressant chez Lavoisier, la bascule qu'il fait, c'est que l'air perd son statut de corps pur, d'élément, pour devenir un composé. C'est à partir de ce moment-là qu'on passe de l'un à l'autre, Nicolas Lévy.
Tout à fait, mais... Si cette avancée-là, elle est très intéressante en ce qui concerne l'eau en tant que telle, c'est-à-dire que ce qu'a montré Lavoisier, c'est de pouvoir identifier qu'il y avait, en faisant passer de l'eau liquide sur quelque chose de très chaud, de pouvoir décomposer H2 et O2, et de pouvoir faire des tests dessus pour montrer effectivement qu'on avait l'apparition de ces gaz, sans pour autant qu'on sache vraiment ce que c'était. Ça a permis de faire l'intuition donc des chercheurs du 19e siècle, comme Dalton, mais là on est au début du 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e. Mais le plus intéressant, c'est vraiment l'avènement de ces méthodes spectroscopiques comme l'infrarouge ou le Raman. On en parlera peut-être ou peut-être pas. Enfin, c'est des spectroscopies d'absorption, c'est-à-dire qu'on absorbe quelque chose pour l'infrarouge et d'émission pour l'autre. Et ça permet d'avoir, des renseignements sur la matière au niveau vibrationnel. C'est-à-dire que comment dans une molécule d'H2O, mais on ne connaît pas encore.
On connaît pas encore H2O, non.
Voilà, mais comment dans H2O, finalement, il y a une réponse entre O et H qui peut se faire, et ça peut donner une idée sur la géométrie. Et ça, c'est vraiment, en fait, 1930.
Ce que j'aime bien, parce que ça m'a sauté au visage alors que c'était sous mon nez, et je pense que ça va faire le même effet à plusieurs auditeurs, c'est que c'est Lavoisier qui a nommé l'hydrogène parce que à partir de l'eau, hydrogène, étymologiquement, c'est hydrogène, donc c'est la molécule de l'eau, oxygène, ça viendra d'un autre, de oxus qui veut dire pointe, mais l'hydrogène, c'est vraiment la base, la molécule de l'eau. C'est un peu une petite information amusante à savoir, de se rendre compte que ça vient de Lavoisier, que c'est une étymologie française. À quel moment on aboutit à la formule H2O que l'on connaît aujourd'hui, Bertrand Guillot ?
Eh bien, on trouve la formule H2O et surtout la forme de la molécule à partir de 1930 à peu près. C'est-à-dire que là, on identifie dans le spectre infrarouge qu'effectivement, la molécule a une forme d'accent circonflexe ou de V avec l'oxygène au centre et les deux H collatéraux. C'était pas évident. À un moment donné, on pensait que c'était OHH, linéaire. Vous voyez, ça paraît bizarre aujourd'hui pour un chimiste, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, très vite, on a réussi finalement à comprendre quelle était la structure plus en détail, non seulement donc de la glace, mais ensuite effectivement de l'eau par la diffusion, la diffraction des rayons X. Et très vite, effectivement, on a commencé à voir cette structure dont on va parler tout à l'heure.
Alors, un mot, et puis on va parler aussi des caractéristiques très fortes qui conduisent et qui nous permettent de comprendre, ou en tout cas de mieux circonscrire les phénomènes étranges et les comportements étranges de la molécule d'eau, c'est qu'on a pendant très très longtemps cru qu'il y avait de l'eau liquide que sur la Terre. On sait maintenant qu'il y en a partout dans l'espace, sur des lunes glacées, autour de Jupiter ou de Saturne, sur des comètes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'eau dans l'espace? Pourquoi est-ce que ce sont ces deux molécules, l'hydrogène et l'oxygène, qui se sont liées de manière aussi fréquente finalement, Bertrand Guillot?
Oui, la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'hydrogène, donc, c'est l'élément le plus répandu dans l'univers. Et ensuite, le troisième élément, c'est l'oxygène. Entre les deux, il y a l'hélium. Donc, effectivement, on voit bien qu'il peut y avoir une chimie qui rassemble oxygène et hydrogène. Et il se trouve que cette chimie se fait pour les molécules d'eau essentiellement sur les grains interstellaires, qui sont des poussières souvent silicatées, et qui viennent d'explosions d'étoiles. Voilà. Et donc, il y a une chimie très complexe qui se passe dans le milieu interstellaire, chimie qui était insoupçonnée il y a encore quelques dizaines d'années, et qui maintenant, effectivement, fait jour. Et donc, C'est pour ça que la molécule d'eau, effectivement, va se fabriquer, non pas forcément dans l'espace comme ça, à la rencontre fortuite d'oxygène et d'hydrogène, mais à la surface de grains interstellaires, parce que le grain va servir de catalyseur, de réceptacle pour des réactions chimiques qui vont conduire aux molécules d'eau. Voilà donc.
Nicolas Lévy ?
Oui, alors... Oui. Non, mais sur cette idée-là, en fait, on peut même aller un peu plus loin. C'est-à-dire que l'eau a quand même quelque chose de fascinant, c'est que quand elle est pure, complètement pure, elle n'a pas du tout les propriétés que les gens connaissent. Donc cette idée de grain à partir duquel on fait des premières réactions chimiques, en fait, on peut l'observer au quotidien. Le passage de glace au liquide, tout le monde sait que c'est à 0 degré, mais c'est à condition que vous ayez un grain quelque part qui va permettre cette transformation de eau liquide en glace à 0 degré. En fait, si vous avez de l'eau liquide pure, c'est ce qu'on appelle les liquides surfondus, et l'eau est assez magnifique pour ça, vous pouvez descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius à peu près avec de l'eau pure qui restera liquide.
Alors ça, on va parler dans quelques instants des transitions de phase. La question que je voulais vous poser, parce qu'effectivement, hydrogène, trois quarts des atomes, hélium, un quart à peu près, l'oxygène, 1%. Pourquoi est-ce que finalement, l'oxygène ne s'est pas assemblé facilement avec l'hélium? Pourquoi est-ce que l'hydrogène et l'hélium eux-mêmes se sont pas mis à faire décomposer? Quelle est la particularité de cette attraction qu'ont l'hydrogène et l'oxygène l'un pour l'autre, Bertrand Guillot?
Effectivement, d'ailleurs, l'oxygène ne va pas se lier uniquement à l'hydrogène, il va aussi se lier aux métaux, et il va faire des oxydes, des oxydes métalliques. Et il faut savoir que 50% de votre corps est constitué d'oxygène et 50% de la masse de la Terre est constituée d'oxygène. D'accord ? Donc, si vous voulez, donc, obligatoirement, il y a une affinité très forte de l'oxygène, par exemple, pour l'hydrogène. Donc, effectivement, on comprend très bien qu'une réactivité chimique qui se fait en présence, effectivement, notamment de catalyseurs solides, va conduire très rapidement à OH et H2O.
Il faut peut-être dire un mot de la liaison hydrogène qui est si caractéristique et qui va expliquer beaucoup, ou en tout cas poser aussi un certain nombre de questions quant aux différents états de cette molécule d'eau.
Alors déjà, on peut peut-être répondre pour les auditeurs que avec l'hélium, c'est la structure électronique de l'hélium qui fait qu'il ne peut rien faire. En fait,
il l'hélium
est une structure
pas.
Complètement bloquée, c'est
inerte.
Ce qu'on appelle un gaz inerte. Comme beaucoup d'autres éléments qui ont d'ailleurs été des éléments les plus tardifs découverts, parce que justement ils réagissent avec personne, donc du coup c'est très difficile de les voir en fait. Et donc sur la liaison hydrogène, c'est ça qui fait la particularité et la difficulté d'étudier l'eau, nous en tant que théoriciens, dans notre domaine. On dit souvent, pour reprendre un collègue, que pour regarder vraiment si vos théories marchent, testez-la sur l'eau. Et en général, c'est un fossoyeur à théorie.
Voilà. D'accord.
Donc, alors.
C'est quoi la liaison hydrogène? Pourquoi elle est si particulière?
C'est assez particulier. C'est-à-dire que l'eau, on sait, c'est H2O. On vient d'en parler. Ça a une structure en accent circonflexe en V. Et en fait, l'oxygène, qui est à la pointe de ce V-là, va se lier parce qu'il a des doublets d'électrons libres, on va dire non-liants, on appelle ça dans notre jargon, qui vont permettre de se lier avec d'autres hydrogènes, d'autres molécules d'eau. Et donc, on voit comme ça que ça fait un sort de massif qui va se permettre de se construire sous une architecture un peu tétraédrique et qui fait une structure...
Une sorte de
maillage.
D'aimant moléculaire, en quelque sorte, si on devait prendre une analogie.
C'est ça. Il se trouve en plus que la liaison hydrogène est assez particulière parce que, si vous voulez, elle est entre une liaison chimique et une liaison qu'on appelle van der Waals, c'est-à-dire, par exemple, entre atomes de gaz rares. Elle est, par exemple, 10 fois plus faible qu'une liaison chimique, mais 10 fois plus forte qu'une liaison de van der Waals. Donc, effectivement, c'est une liaison un peu hybride, qui est très particulière, qui est difficile à modéliser, et qui fait qu'effectivement, la molécule d'eau est assez collante, en quelque sorte. Elle colle un peu comme, effectivement, une liaison chimique, mais sans être aussi forte.
C'est pour ça, c'est entre autres pour ça qu'on dit de la molécule d'eau que c'est une molécule polaire. Elle se lie facilement, beaucoup plus facilement que n'importe quelle autre molécule.
C'est ça, c'est-à-dire il se trouve que l'oxygène va capter effectivement une partie des électrons qui gravitent autour des H, et donc il va y avoir effectivement un moment dipolaire, mais ce moment dipolaire va être très étalé, c'est-à-dire que vous avez une charge négative sur l'oxygène et des charges positives sur les hydrogènes. Donc vous allez avoir effectivement une délocalisation un petit peu de cette charge qui va conduire à ce moment-là, vous pouvez prendre une feuille de papier de manière très simple, vous décrivez une forme en V avec oxygène HH, et vous allez voir que vous allez pouvoir mettre sur le plan de votre feuille 3 autres molécules autour, simplement en faisant s'attirer les O avec les H. C'est très simple.
Les plus et les moins. Enfin.
Voilà, les plus et les moins. Vous en aurez 3, et à 3 dimensions, vous en aurez 4. Voilà la structure.
Alors, dans les liquides, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a finalement très peu de liquides qui font des liaisons hydrogènes. Donc, on en a quelques-uns qu'on utilise en première étape de robustesse, comme le méthanol. Mais alors, ça, c'est pas courant. L'éthanol, c'est l'alcool de boisson, mais le méthanol, on ne le voit pas trop. Il y a comme ça aussi l'acide fluorhydrique qui en fait. Mais c'est assez rare, en fait, d'avoir ce genre de liquide qui a des liaisons hydrogènes aussi fortes et en aussi grand nombre. Alors après, la liaison hydrogène, elle existe par ailleurs. Elle n'existe pas que dans les liquides. La structure de l'ADN, vous en avez peut-être parlé à d'autres moments.
C'est
aussi, voilà, c'est ça.
On a fait une émission hier sur la mémoire ADN.
Donc du coup, bah, la structure en elle-même, une partie des grandes explications, c'est aussi qu'il y a des liaisons hydrogènes qui se forment entre l'atome d'oxygène et des atomes d'hydrogène de parties voisines. Donc on est comme ça exactement dans des édifices qui vont s'assembler, avoir des formes particulières du fait de cette liaison un peu curieuse qui porte un nom en fait vraiment différent des autres. On appelle des liaisons covalentes, c'est les liaisons très fortes, liaisons hydrogène, liaisons de Van der Waals, vous voyez, elle a son petit nom.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h16, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de l'eau, ça a l'air bête comme ça, et pourtant vous allez voir à quel point cette eau, cette molécule d'eau est complexe. Nous en parlons avec Bertrand Guillot qui est physico-chimiste et Nicolas Lévy qui est chimiste. Et maintenant qu'on a défini un peu les contours, et on aura le temps de les repréciser au cours de cette heure, des caractéristiques intrinsèques à cette molécule d'eau, on va commencer à en observer les comportements étranges. Et ils sont très nombreux, des étrangetés aussi bien chimiques que physiques, on va le voir, qui justifient que l'eau, toute simple soit-elle, est encore toujours le sujet de très nombreuses études. Bonjour Céline Nozène.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous êtes allé assister à des simulations numériques de liquéfaction.
Oui, parce qu'aujourd'hui, la chimie se fait aussi par simulation, comme à Chimie Paris Tech, où j'ai retrouvé François-Xavier Coudert pour une expérience simulée de la fonte de la glace en eau liquide. Pas de glaçons ni de béchère donc pour cette manip, mais une modélisation qui montre les mécanismes de transition de phase et qui dévoile une anomalie physique où l'eau glace est plus dense que l'eau liquide.
Aujourd'hui, on a une vision moléculaire et atomistique de la matière. Il y a encore des comportements qu'on ne comprend pas tout à fait dans l'eau. C'est un challenge pour nous, modélisateurs, de permettre d'étudier des systèmes très complexes. Ce que je vous proposais, c'est de faire une simulation du comportement de l'eau, dans laquelle on prend un système donné. Ici, c'est un millier de molécules d'eau, et qu'on va placer dans une température qui augmente. Donc le but, c'est vraiment de voir la fusion du système.
Donc là, on a un système eau-liquide. Qu'est-ce que vous avez appliqué comme paramètre ?
Donc c'est un système d'eau liquide qui démarre à une température de un peu en dessous du 0 degré Celsius, donc c'est 250 Kelvin, et dans laquelle la température va monter progressivement. Donc le but, c'est de voir la réponse. Donc on démarre sur de l'eau glace, et puis on va a priori le voir fondre.
De l'eau glace qui est donc à moins combien ?
Alors 250 Kelvin, ça va nous faire moins 23 degrés Celsius. J'ai préparé un certain nombre de fichiers qui décrivent le modèle qu'on utilise pour la molécule d'eau. Là, on voit des séries, des colonnes de chiffres qui s'affichent. C'est décrire au cours du temps l'évolution du système, sur de toutes petites échelles.
Oh, puis c'est arrêté le programme, là ?
Si on regarde ce qui se passe pendant ce temps, on peut regarder le comportement des molécules individuellement.
Ah oui, donc il nous génère un schéma qui représente les molécules d'eau qui se sont réorganisées.
Voilà, donc là, on voit la première configuration, c'est celle de la glace. Ça fait un réseau en nid d'abeille, hein, hexagonal. Donc la glace, parfaitement ordonnée, ça c'est le point de départ que j'ai donné à la simulation. C'est la structure qui vient de la cristallographie.
En rouge, c'est l'atome d'oxygène, et on a deux petites boules blanches de part et d'autre qui sont l'hydrogène.
Voilà, donc on voit rouge l'oxygène, blanc l'hydrogène, et entre les molécules, on a représenté un réseau de liaisons hydrogène. C'est une de ces interactions qui donne à l'eau, c'est son caractère si particulier et ses propriétés. Et là, on voit que toutes les molécules d'eau sont impliquées dans quatre liaisons hydrogène exactement. Elles sont toutes très régulièrement ordonnées. Je fais défiler le temps et on va voir les molécules bouger. Ça bouge beaucoup, en fait. Hein, même la glace à moins 20 degrés, les molécules bougent beaucoup. Le réseau reste globalement hexagonal, mais il a l'air abîmé, entre guillemets.
C'est comme si la structure était prise de secousses et qu'elle vibrait en harmonie.
Voilà, donc on a l'habitude de penser à un solide cristallin, particulièrement comme quelque chose de figé. À moins 20 degrés, même à moins 20 degrés, il y a beaucoup d'agitation thermique dans le système. Et puis au bout d'un moment, on voit le passage, le moment où... Alors c'est juste ici, on voit le moment où la température a atteint le point de fusion et le système va complètement se désordonner à partir de là.
À 0 degré.
Donc là on est à 0 degré, à partir de là, le système devient globalement désordonné. Il continue à bouger beaucoup mais il est désordonné, c'est ce qu'on va appeler une phase liquide.
Là, on est sur une durée accélérée ou on est...
Alors, le temps qui se passe là, en simulation, c'est de l'ordre de 100 picosecondes. Donc, c'est un temps très court. La simulation, elle a pris, vous l'avez vu, de l'ordre de 30 secondes en temps réel. Elle a simulé une durée d'expérience numérique, on va dire, de 100 picosecondes. Donc, c'est un temps très court. Et donc, si on regarde l'eau une fois désordonnée, on voit qu'il continue à y avoir des liaisons hydrogènes entre les différents atomes. Mais là, j'en compte 3 sur cette molécule-là. J'en compte 4 sur certaines autres molécules. Le système est devenu, vraiment, on ne reconnaît plus d'ordre. On a perdu les hexagones. Et puis, les molécules d'eau vont être de temps en temps bien alignées les unes en face des autres. De temps en temps, avec l'agitation et leur dynamique, elles vont changer de partenaire de liaison. Et puis aussi, elles vont donc diffuser, c'est-à-dire se déplacer à grande échelle dans le système. C'est ça qui fait les caractéristiques d'un liquide. Une autre caractéristique, alors j'essaie de le tracer là.
Vous avez généré un spectre, un graphique.
Donc en fait, on regarde l'évolution, donc on peut voir la vision microscopique et on peut également voir la vision, donc juste le mouvement des molécules. On peut aussi voir un certain nombre de grandeurs. Là, c'est le volume du système en fonction de la simulation. Et donc ce qu'on voit, la courbe, en fait, elle montre une rupture au moment de la fusion. Donc, et ça, c'est aussi quelque chose qui est inattendu, enfin qui est inhabituel et qui est spécifique à l'eau, c'est que le volume va diminuer quand on chauffe et que la glace fond. C'est-à-dire l'eau et l'eau liquide à basse température est plus dense que l'eau glace. Et ça, c'est la plupart des solides, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle une des anomalies du comportement de l'eau. Donc celle-là, c'est l'anomalie de densité. On la retrouve par simulation. On voit qu'on passe pour notre système. Là, on a perdu quelque chose comme 1% du volume. Donc au cours de la fusion, le système s'est contracté.
Ce serait possible de simuler le phénomène inverse, la solidification de l'eau en glace.
Alors c'est tout à fait possible, si je ne le fais pas aujourd'hui, il y a une raison, c'est que c'est beaucoup plus lent comme phénomène, tout simplement parce que la cristallisation, elle va se faire par nucléation, c'est-à-dire il faut former le germe d'un cristal qui va grandir, et c'est, cinétiquement c'est très lent. Donc dans les échelles de temps dont j'ai parlé aujourd'hui, le phénomène ne serait pas produit. Si je prends le système là et que je le refroidis, que je fais l'inverse de ce qu'on vient de faire, je redescends la température jusqu'à 250 Kelvin, ce qu'on va voir, ça correspond à un refroidissement très rapide à l'échelle du système, et ce qu'on va voir, c'est la formation d'un verre, en fait, d'un verre d'eau, d'un système amorphe, pas cristallin.
Voilà le reportage du jour de Céline Lezenne qui a commencé par ce qu'on appelle un beau lapsus, en tout cas un beau contresens. C'est que, contrairement à ce qu'a dit Céline tout à l'heure, l'une des premières, celle qui est en tout cas la plus visible, particularité, anomalie, pourrait-on dire, de l'eau, c'est que son état solide est moins dense que son état liquide. La glace est moins dense que l'eau. C'est pour ça, chez vous, que vous mettez des glaçons dans un verre et qu'ils flottent au lieu de couler. Aujourd'hui, est-ce qu'on comprend la raison de cette anomalie, alors que pour la plupart des autres molécules, eh bien, les états solides sont des états plus denses, plus compacts?
Oui, c'est dû effectivement à la structure de la liaison hydrogène, c'est-à-dire que chaque molécule d'eau est entourée par 4 voisines qui sont bien orientées suivant les axes OH de chaque molécule, ce qui fait qu'on a une structure relativement étalée et donc dont la densité est relativement basse. Qu'est-ce qui se passe lorsque on chauffe cela? Eh bien, lorsque par exemple on passe à l'état liquide, à ce moment-là, vous avez à cause de l'agitation thermique une perte d'à peu près une demi-liaison hydrogène, ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, vous n'avez plus 4 strictement molécules d'eau qui entourent chaque molécule d'eau, mais 4,5. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la structure locale est plus compacte, donc la densité augmente. Et donc à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un liquide qui est à 1 g au lieu d'être à 0,92 g. Et si vous continuez un petit peu, eh bien à 4 degrés, vous arrivez à un maximum de densité.
Mais on va reparler de cette autre anomalie des 4 degrés. On va parler un peu plus de cette glace. Et encore, je dis cette glace, je devrais dire ces glaces, parce qu'il n'y a pas qu'une seule glace, Nicolas Lévy.
Oui, tout à fait. Pour un peu préciser le discours de Céline, ça peut arriver que la glace soit plus légère que l'eau liquide. Donc il y a des formes de glace, donc la numéro 16, c'est ça,
ou 13, 13, que la glace soit plus lourde, vous-même vous faites.
Oui, alors,
voilà. Que vous-même, que la glace soit plus lourde.
Voilà, c'est ça. Donc,
il y a un type de glace qui est plus dense.
Exactement.
Que l'eau.
C'est la glace 13. Même deux, la 13 et la 15.
D'accord.
Il y en a beaucoup plus que ça.
Et en fait, il y en a beaucoup plus. Il faut savoir que globalement, il y a quelques structures solides stables et énormément de structures qu'on dit métastables, c'est-à-dire qui ne sont pas les structures stables d'un point de vue énergétique, mais qu'on peut arriver à isoler. Et dans ces structures-là, on va voir si on arrive à les faire des glaçons qui coulent.
Mmh. Voilà. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi plusieurs types de glaces? En quoi la glace 15 ou 13 est différente de la glace 8 ou 2? Quelles sont ce sont juste des propriétés? C'est une certaine forme de cristallisation? Oui. C'est au niveau moléculaire, atomique, ionique? Comment ça se passe, Bertrand Guillot?
Oui, le problème, c'est que la structure de la liaison hydrogène fait que l'eau a la particularité de faire des structures qui sont finalement très dégénérées en énergie. Ça veut dire que finalement, énergétiquement, ce sont des structures qui sont assez proches les unes des autres. Et donc, suivant les conditions thermodynamiques, température, pression, eh bien, vous aurez effectivement une structure qui sera privilégiée par ces conditions de température et de pression. Et donc, macroscopiquement, ça se traduira par un ordonnancement du cristal qui sera légèrement différent. Voilà, c'est pour ça que, justement, le fait qu'effectivement, les liaisons hydrogènes ont une liabilité importante fait qu'on a un diagramme de phase qui est très compliqué.
On parle depuis le début de cette émission, on parle de situation à pression atmosphérique locale. C'est parce que, évidemment, la glace et l'eau se comportent différemment en fonction des niveaux de pression. Vous vouliez réagir, Nicolas?
Oui, tout à fait. Alors, pour quand même préciser un peu pour nos auditeurs, pour qu'ils visionnent un peu, parce que c'est difficile de parler chimie, puis structure à la radio.
Alors, met par ailleurs sur le fil Twitter quelques schémas. On a montré précisément, quand tout à l'heure vous nous parliez, Bertrand Guillot, de cette forme pyramidale et des trois triangles. On a mis les liens. Donc, suivez-nous sur Twitter, @lamethodefc. Bah voilà, comme ça, vous aurez l'image avec le son.
Très bien. Alors, justement, si les gens ont ça devant eux, c'est très bien. Il faut imaginer qu'en fait, la glace la plus standard qu'on ait, c'est un peu comme une structure en nid d'abeille, un peu hexagonale, où justement, on a ces pyramides qui viennent s'assembler pour faire une structure hexagonale de nid d'abeille. Donc ça, c'est la glace la plus courante. Et de point de vue macroscopique, hein, ce qu'on voit à l'œil nu, j'allais dire, évidemment avec un microscope, mais ce qu'on verrait. Sinon, après, on a ces structures un peu plus exotiques, selon les conditions. Et également aussi les conditions de refroidissement. C'est-à-dire que ça va influer, on a entendu François-Xavier en parler, selon la manière dont on refroidit un liquide, rapidement, ou moins rapidement, etc., on va avoir des structures qui peuvent être complètement différentes, voire même pas du tout cristallines.
Oui, à ce propos, on a découvert relativement récemment, dès les années 80, des glaces amorphes. Ça, c'était une découverte intéressante, notamment le fait que si on refroidit de l'eau liquide suffisamment vite, et vous allez voir, suffisamment vite, c'est 1 million de degrés par seconde. C'est ce qui est considérable, et pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de toutes petites gouttes microniques d'eau qu'on jette dans l'azote liquide. Et le taux de refroidissement est tellement important qu'à ce moment-là, on évite la cristallisation, et à ce moment-là, on a de la glace amorphe. Et donc cette glace amorphe, c'est un liquide figé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu refaire des glaces amorphes d'une manière différente, en prenant une trajectoire thermodynamique différente, par exemple en comprimant de la glace à basse température. Eh bien, on la comprime, on l'amorphise, et quand on relâche la pression, elle reste comme on l'a mise. Et puis, il y a une dernière manière de faire une glace amorphe, c'est par déposition, molécule par molécule, sur une paroi froide. C'est ce qui se passe dans les comètes. C'est-à-dire que quand vous avez des molécules, effectivement, à très basse température, 20 ou 30 degrés Kelvin, dans l'espace interstellaire, et qu'elles arrivent sur une paroi froide, elles se collent et elles restent là. Et petit à petit, vous allez accroître une glace très poreuse, avec une densité très faible, qui peut être 0,3, 0,4, 0,5 grammes par centimètre cube.
Il y a une autre caractéristique que tout le monde connaît, la glace, de l'eau plus précisément. Tout le monde a déjà laissé oublier une bouteille d'eau dans son congélateur. Les bouteilles d'eau explosent, ça a l'air tout à fait naturel comme ça, mais c'est totalement contre-intuitif en fait, puisque dans la nature, normalement, quand une molécule passe de l'état liquide à l'état solide, elle se contracte. L'eau, au contraire, c'est l'inverse. L'eau ne se contracte pas. L'eau prend plus de volume à l'état solide qu'à l'état liquide. Est-ce qu'on comprend bien ce phénomène aujourd'hui, Nicolas Lévy?
C'est lié en fait à la masse volumique, au fait justement que votre glaçon flotte. Je vais y arriver, parce que évidemment, toutes ces perturbations, maintenant que je réfléchisse, mais en fait que les glaçons flottent. Donc du coup, pour, on va dire, une même quantité d'eau initiale, vous occupez plus de volume, d'accord? Et donc si vous occupez plus de volume, eh ben, forcément, vous avez cette anomalie dans vos frigos.
Bertrand Guillot, sur cette anomalie de volume?
Oui, cette anomalie de volume, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est dû effectivement essentiellement à la liaison hydrogène, c'est-à-dire au fait que les molécules essayent de minimiser leur énergie et donc de bien s'aligner et donc à ce moment-là occupent plus de volume dans l'espace. Et donc à ce moment-là, effectivement, le glaçon flotte sur l'eau.
Parlons aussi des transitions de phase. Une particularité de l'eau, c'est que la transition de phase est brutale. Elle n'est pas progressive. On parle de catastrophe mathématique, même Nicolas Lévy.
Alors, oui, alors, je dirais que ça, pour le coup, c'est pas clos. C'est toutes les transitions solides, liquides, liquides, vapeur, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, des transitions de phase du premier ordre, où il y a, en fait, une discontinuité dans la dérivée de l'énergie. Je pense que là, on est arrivé loin déjà dans le...
D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourrait imaginer que, ben, pour un liquide, quand on réduit la température, le liquide devient de plus en plus visqueux, jusqu'à se solidifier. Or, pour l'eau, on descend sous 0 degré et elle se solidifie d'un coup.
Oui, bah c'est...
Non, c'est vrai pour tous les liquides.
C'est vrai pour tous les liquides.
Les transitions de phase, les transitions de phase du premier ordre, comme Nicolas vient de dire, effectivement, c'est vrai pour n'importe quel, que ce soit un métal, un liquide métallique ou un liquide monoatomique, etc. C'est la même chose. Donc là, il n'y a pas d'anomalie de l'eau de ce côté-là.
D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'anomalie, tant mieux. Enfin, un endroit où il n'y a pas d'anomalie. On va parler d'autre chose que vous abordiez à l'instant, Bertrand Guillot. Tout ça, encore une fois, je le dis, à impression atmosphérique ambiante. À 4 degrés, qu'est-ce qui se passe à l'eau à 4 degrés? Pourquoi 4 degrés c'est une température à pression atmosphérique ambiante particulière pour l'eau, Bertrand Guillot?
À 4 degrés, effectivement, c'est le maximum de densité de l'eau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une compétition entre le fait que, à cause de la dilatation thermique, la densité a tendance à descendre, mais d'un autre côté, à cause des liaisons hydrogènes, eh bien, ça a tendance à croître. Et donc, il y a une compensation, et on arrive à cette compensation à 4 degrés et donc un maximum de densité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, si maintenant on étudie une autre variété d'eau, c'est l'eau lourde, D2O, à ce moment-là, on voit que ce maximum de densité n'est plus à 4 degrés, mais il est à 7 degrés, par exemple. Et ça, c'est dû effectivement à des phénomènes quantiques, parce qu'il y a effectivement une délocalisation légère du proton qui fait que l'eau lourde a une structure légèrement différente, plus liée que l'eau légère, l'eau habituelle, et qui conduit d'ailleurs à des problèmes, on verra peut-être un petit peu plus tard sur les protéines, puisque D2O, l'eau lourde, est toxique pour la biologie.
D2O, c'est avec un isotope de l'hydrogène qui s'appelle le deutérium.
Voilà, c'est ça, et donc constitué d'un proton et d'un neutron. Voilà.
Nicolas Lévy, sur cette densité maximum donc de l'eau à l'état liquide à 4 degrés, pourquoi est-ce que c'est spécifique à l'eau? Comment se comportent les autres éléments, les autres molécules?
Vous voulez dire les autres liquides?
Les autres liquides, le comportement traditionnel en tout cas général.
En général, la densité diminue avec la température, ce qui paraît quelque chose qu'on peut bien comprendre. Hein, plus vous chauffez, plus vous allez justement avoir un mouvement plus simple et donc avoir ce genre d'accroche moins forte avec l'eau. Le fait qu'il y ait ce maximum, et encore une fois, on va revenir sur la liaison hydrogène, c'est vraiment ça. Alors, il faudrait étudier HF, bon là, je sais pas, pour les liquides, qui pourrait peut-être avoir ce genre de densité.
Alors, il y a un autre liquide, il y a un autre liquide qui a un maximum de densité, c'est la silice, SiO2, qui a une structure tétraédrique, exactement comme l'eau, mais effectivement, c'est un système plus complexe, mais c'est très important, puisque les laves, par exemple, des volcans, sont en partie constituées de SiO2. Et là aussi, il y a un maximum de densité, et pour les mêmes raisons, d'ailleurs.
Il y a une conséquence importante, on pourrait même dire essentielle, de ce maximum de densité à 4 degrés. Si cette densité maximum à 4 degrés n'existerait pas, eh bien finalement, peut-être qu'il n'y aurait pas de vie sur Terre, parce que si l'eau gelait, s'il n'y avait pas cette constante de densité thermique à 4 degrés, il n'y aurait pas de mouvement de chaleur et puis l'eau gèlerait en profondeur et elle ne dégèlerait jamais. Est-ce que vous validez cette hypothèse ou cette théorie, Bertrand Guillot ou Nicolas Lévy?
Je peux te laisser, Bertrand, c'est plus son domaine, je pense, mais je ne sais pas.
C'est-à-dire que si on prenons un lac, par exemple, en hiver, la surface gèle, la température diminue, tout tombe à 0 degré, le lac entier gèle, puis ensuite, ça dégèle un peu en surface, mais ça n'atteint pas les profondeurs et l'eau resterait gelée en permanence, en quelque sorte.
Oui, enfin, si par exemple, il n'y avait pas l'anomalie effectivement constatée et que la glace soit plus dense que le liquide, à ce moment-là, effectivement,
effectivement, la glace qui se formera en surface tomberait au fond, et petit à petit, effectivement, vous n'auriez plus d'eau liquide, et donc à ce moment-là, vous auriez un vrai problème pour la biologie, ça c'est certain.
Et à ce moment-là, vous et moi, et Nicolas Lévy, voilà, ne seraient pas là pour discuter de ces propriétés étranges de l'eau.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est l'amant, le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néon. C'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du fifarchon, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un joli bout douquet, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est les cris d'un hibou, encore ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, un point, une bosse, une tache, un goût, un geste, une aiguille, une guêpe, un coup. L'hiver qui s'efface, fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars.
16h37 sur France Culture, vous écoutez la méthode scientifique et les eaux de Mars de Stacey Kent. Vous aurez reconnu bien sûr la reprise d'Aqua de Marceau de Jobim. On va pouvoir parler encore un peu de l'eau tout au long de cette dernière demi-heure d'émission avec Bertrand Guillot, qui est physico-chimiste, directeur de recherche au CNRS et rattaché au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à l'UPMC, et Nicolas Lévy, qui est professeur agrégé au sein du département chimie de l'ENS, rattaché au pôle de physico-chimie théorique. On continue donc à parler de ce liquide bien étrange, en effet, qui est le monoxyde de dihydrogène. De l'eau, hein, évidemment, du latin aqua, qui a évolué en eoué en ancien français, puis ça a donné le prénom Ève, hein, la première femme biblique. C'était ma rubrique Le saviez-vous du jour. D'autres comportements étranges, inconnus, ou en tout cas qui donnent encore lieu aujourd'hui à beaucoup de recherches, c'est notamment cette capacité, cette fonction de solvant universel de l'eau. L'eau dissout, et l'eau dissout peut-être pas tout, mais l'eau dissout beaucoup, Nicolas Lévy.
Oui, alors qui n'a pas été fasciné dans son enfance et encore maintenant de jeter qui du sel, qui du sucre dans l'eau et le voir disparaître, voilà, tout simplement. Et donc c'est cet effet de solvatation. Donc là, ça va nous permettre de revenir sur deux grandeurs essentielles pour comprendre l'eau. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le moment dipolaire. Vous avez parlé de la polarité, qui est pas une donnée qu'à voir.
Oui, c'est parce que tout à l'heure j'ai dit un peu rapidement que c'était extrêmement simple finalement, puisqu'il y avait une polarité négative sur l'hydrogène, une polarité positive sur l'oxygène, et paf, ça s'associe en fait à liaison hydrogène. C'est, j'ai dit inverse.
Non, oui, c'est le contraire. C'est négatif sur l'oxygène
et positif sur l'hydrogène. Décidément, c'est
non, mais c'est compliqué.
C'est la journée où on dit l'inverse de ce qu'on a envie. Bref, enfin, toujours est-il que pour dire que c'est plus complexe qu'une une simple question de polarité.
Tout à fait, pour la liaison hydrogène. Mais donc là, du coup, on va évacuer le problème de la liaison hydrogène pour l'instant. Mm-hmm. Et donc, de parler que, donc, il y a ce côté-là qui est l'eau arrive au niveau des édifices qui sont à la base neutre, hein, notre monde est électriquement neutre, de arriver à séparer les charges plus et les charges moins. Tout le monde sait que le sel de cuisine, ce qu'on appelle du chlorure de sodium,
mm-hmm. NaCl.
Chlorure NaCl. Le sodium Na a plutôt tendance à vouloir être plus, le chlorure a plutôt tendance à vouloir être moins. Et bien justement, la polarité de la molécule d'eau va permettre justement de séparer ces charges au sein de la molécule neutre. Mmh. Ensuite, il faut un deuxième aspect, c'est qu'il faut pouvoir couper la liaison qu'il y a entre un atome de sodium mmh. et un atome de chlore mmh. dans cet édifice ionique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la constante diélectrique de l'eau qui est énorme, qui vaut 80. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre jargon, ça ? Ça veut dire que l'eau en moyenne divise les interactions électrostatiques par 80. En gros, tout le monde sait que les charges plus attirent les charges moins. Dans le vide, ça se colle bien. Et ben dans l'eau, ça se colle 80 fois moins. Mmh. Du coup, on va pouvoir séparer ça. Et à partir du moment où on a séparé les ions seuls, on a des espèces chargées. Et comme Bertrand l'a dit, hein, on l'a rappelé, l'oxygène a plutôt tendance à être négatif, les hydrogènes plutôt positifs. Et ben si on se retrouve avec un sodium isolé comme ça, en solution, qu'est-ce que va vouloir faire l'eau ? Et ben va vouloir orienter toutes ces petites têtes de pointes d'action circonflexe oxygène autour de ce sodium. Et elle va créer ce qu'on appelle des cages de solvatation. En général, on en voit 6. Donc il faut imaginer que vous avez une structure qui est en bipyramide. Vous voyez, une bipyramide à base carrée. Et on a ces atomes-là qui sont solvatés à peu près. On va le dire comme ça pour essayer de le visualiser.
On va faire transpirer un peu Noémie Naguet qui s'occupe du fil Twitter et du live tweet de l'émission. Et on va lui demander d'aller trouver justement une petite cage de solvatation à mettre sur le fil Twitter pour qu'on puisse la visualiser, que nos auditeurs puissent la visualiser. Un mot sur cette fonction, cette capacité, je ne sais pas comment l'appeler, vous allez me le dire, Bertrand Guillot, de solvant universel de l'eau.
Oui, alors par exemple, justement, il y a une autre particularité, c'est ce qu'on appelle le concept d'hydrophobie, c'est-à-dire que lorsque vous avez des solutés, c'est-à-dire des particules étrangères qui rentrent dans l'eau et qui sont peu ou pas polaires, à ce moment-là, l'eau a tendance à fuir ces composés-là. Fuir veut dire simplement qu'elle a tendance à former des liaisons avec elle-même, et donc à ce moment-là, à faire des cages, mais simplement d'exclusion. Et alors c'est par exemple le cas du gaz carbonique. Et alors il y a des choses qui sont très intéressantes, puisque par exemple, l'effet hydrophobie avec le gaz carbonique dépend de la température et par exemple quand vous mettez du CO2 par exemple la mer, le CO2 qui rentre dans l'eau de mer.
On sait que les océans sont des puits de carbone.
Exactement.
Hein, que ça capture une grande partie du dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'atmosphère.
Et la solubilité du CO2 est très sensible à la température. On peut mettre deux fois moins de CO2 dans l'océan près des tropiques par rapport au pôle.
C'est l'un des dangers du réchauffement climatique.
Absolument.
C'est que l'augmentation de la température de l'atmosphère fasse en sorte que l'océan relâche une partie du dioxyde de carbone qui a été emprisonné.
Voilà. Alors justement, le problème, c'est que si maintenant vous laissez ces molécules comme le CO2 et que vous baissez la température, vous avez la formation de ce qu'on appelle de clatrate, c'est-à-dire c'est une glace très particulière qui forme des cavités dodécaédriques très complexes. Et ces cavités sont faites simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, par cette facilité qu'a l'eau à former des structures. Et donc, c'est des structures qui enclavent le CO2. Et au fond des océans, vous avez effectivement une quantité gigantesque de méthane qui pourrait effectivement être libérée dans le cas de réchauffement climatique. Et ça, c'est effectivement un vrai danger pour le futur.
Et un mot pour dire que c'est François-Xavier Coudert qui, le premier, a réussi à trouver une image, pour mettre sur le fil Twitter, de cage de solvatation. François-Xavier Coudert, qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage de Céline Lozen. On a parlé beaucoup de chimie, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'aimerais qu'on fasse aussi un peu de physique et qu'on parle d'une bizarrerie, encore une autre notable de l'eau, la question de la tension de surface de l'eau liquide. Alors, tous les liquides, bien sûr, ont une tension de surface. C'est la pellicule supérieure qui résiste un peu plus et qui permet de former des gouttes. Mais celle de l'eau, elle est particulièrement robuste, Nicolas Lévy.
Oui, alors là, on avait un peu évacué la liaison hydrogène. On revient dedans.
Le retour.
Mais c'est ça, en fait. C'est que comme c'est justement un liquide dans lequel il y a ce maillage qui existe grâce à cette liaison, on a un liquide, finalement, dont on sent bien qu'il va avoir des particularités d'être très très justement fort, enfin d'avoir une tension superficielle très forte. C'est-à-dire qu'on peut former facilement des gouttes, des bulles, on peut avoir des problèmes de mouillabilité particulière. Donc c'est ce qu'on voit quand les surfaces sont justement très hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas l'eau. Une goutte de liquide
aqueux va se mettre en forme de goutte parfaite sphérique, ce qu'on ne verra pas forcément dans d'autres types de liquides, etc. Et ça, c'est...
Oh, tout le monde l'a constaté. Hein. Et puis, des gouttes qui se maintiennent, même sur des surfaces en pente, comme sur un pare-brise de voiture, les gouttes tiennent, elles résistent,
oui,
elles s'accrochent.
Sur les nénuphars, par exemple. Sur les nénuphars, vous verrez, vous avez de très, très, très jolies gouttes sur les nénuphars. Et effectivement, vous pouvez y recueillir l'eau simplement en soulevant la feuille de nénuphar, par exemple.
Et alors, donc, pour faire un peu de physique, hein, sur revenir là-dessus, cette tension superficielle, en fait, elle est importante, essentielle dans la vie, puisque c'est... Alors ça serait un peu compliqué de l'expliquer plus simplement, mais c'est ce qui explique un peu les montées de capillarité. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire, par exemple, quand vous mettez un papier buvard dans l'eau, hop, ça monte. Et ben c'est le principe, effectivement, de la montée de sève dans les arbres. Un des principes, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui explique la montée de sève dans les arbres. Mm-hmm. On peut toujours se poser la question, pourquoi on arrive à avoir de l'eau à 80 mètres de hauteur, ce qui va contre la gravité.
Mm-hmm, bien sûr. Bertrand Guillot. Sur cette capillarité.
Oui, absolument, effectivement. Par exemple aussi, quand vous regardez simplement un tube à essai, effectivement, on voit la remontée sur les bords du tube à essai, absolument.
Et il y a même une science qui s'intéresse spécialement aux gouttes d'eau, c'est l'hydrodynamique interfaciale, je ne me trompe pas.
Oui, alors je ne sais pas si elle se nomme exactement comme ça, on va dire oui, hydrodynamique interfaciale, dans les parties microfluidiques, on va dire. Donc là, effectivement, on est à ce moment-là dans des aspects un peu particuliers, parce que, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a la vision de l'eau comme étant quelque chose d'uniforme. Mais il faut différencier l'eau quand elle est sur taille macroscopique, c'est-à-dire là ce que j'ai dans la bouteille d'eau qui est là, et quand vous commencez à vous intéresser à des structures d'eau à une échelle d'une goutte. On a à ce moment-là des propriétés très différentes.
Que dit aujourd'hui et comment est-ce que la physique quantique envisage précisément un certain nombre de ces bizarreries? Comment est-ce qu'elle englobe ces questions autour de l'eau? Elle essaye de proposer des solutions précisément pour résoudre, pour voir l'eau finalement plus comme un champ que comme un élément moléculaire à proprement parler, Nicolas Lévy?
Oui, alors ça c'est après, c'est toutes les recherches qu'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'expérimentateurs qui travaillent pour nous et on leur remercie, et on a beaucoup de données. Et ce qui est toujours difficile, c'est d'analyser vraiment quelle est l'essence de ces données, d'où viennent les propriétés de l'eau. Et donc, on est amené à faire justement des théories pour représenter l'eau. L'eau, on sait que c'est H2O, mais nous, quand on fait des simulations comme François-Xavier Couder vous en a parlé, notre eau, elle n'est pas forcément H2O. On appelle ce qu'on appelle, par exemple, des solvants implicites, c'est-à-dire qu'on va travailler avec de l'eau qu'on va déstructurer pour juste en tirer exactement le phénomène qui nous paraît le plus essentiel, par exemple sa polarité, par exemple son moment, son permittivité relative, etc., pour essayer de comprendre ça. Et donc, où vous mettez la notion de champ, c'est exactement ce que nous, on rentre dans nos ordinateurs pour simuler l'eau. Ça peut être des potentiels, des champs de force qui vont justement être là pour modéliser l'eau, mais pas sous sa forme structure telle qu'elle existe réellement, mais dont la modélisation qu'on en fait donne les résultats qui sont équivalents à la description structurelle. C'est...
Bertrand Guillot ?
Oui, complémentaire à ces développements théoriques, il y a effectivement les simulations moléculaires dites atomistiques, où là, effectivement, on prend en compte absolument la description des noyaux et des électrons, soit d'une manière quantique, par des théories approchées pour résoudre l'équation de Schrödinger, qui est irrésolvable comme ça, sans approximation, ou alors par ce qu'on appelle des champs de force empiriques, mais qui tiennent compte effectivement de la structure locale. Et on arrive, comme cela, par des simulations qu'on appelle de dynamique moléculaire, eh bien, on arrive à reproduire toutes les caractéristiques et les propriétés thermodynamiques et de transport de l'eau avec une assez bonne précision.
L'équation de Schrödinger, qui, si vous me permettez, Bertrand Guillot, est insoluble pour garder la thématique du jour qui ne se comporte pas comme le chlorure de sodium à l'intérieur de l'eau. Est-ce qu'il serait juste de dire que finalement, au lieu de considérer, d'observer les états de l'eau, si l'on en étudie les champs, on peut considérer à ce moment-là l'eau comme un milieu de stockage et de propagation de l'information, Nicolas Lévy? Alors, ou Bertrand Guillot? Je vous pose une colle.
Oui, là, la question de colle, qu'est-ce que vous entendez par là?
Simplement, si on envisage l'eau, si on envisage l'eau en termes de physique quantique, c'est un endroit, un espace de champ qui propage de l'information au lieu de la retenir, les cages dont on parlait tout à l'heure. Non, mais c'est vraiment juste une...
Oui, il faut quand même faire attention à une chose, c'est que tant qu'on est en phase liquide, par exemple, ces structures sont labiles, c'est-à-dire qu'elles sont transitoires, elles durent de l'ordre de quelques picosecondes, par exemple, exemple, et bien qu'elles existent en moyenne, effectivement, elles disparaissent fugitivement. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'il reste quoi que ce soit d'une structure à un temps plus long. Hein. Donc c'est quand même fondamental.
Vous m'amenez ça sur un plateau. je vous remercie infiniment, Bertrand Guillot, puisque évidemment, il nous reste une minute et si je n'avais pas évoqué cette question, je m'exposais à recevoir des camions bennes entières de lettres d'insultes. Vous le dites, hein, la structure labile de l'eau ne retient pas. Or, il y a beaucoup de questions qui se posent et certains auditeurs qui nous ont d'ailleurs interrogés à ce propos sur cette polémique autour de cette controverse, disons, autour de la mémoire de l'eau. Hein. L'eau pourrait mémoriser des informations de nature électromagnétique ou chimique. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement écarter de la main. Il n'y a aucune confirmation empirique, physique, chimique de cette éventuelle
Absolument.
Mémoire de l'eau, Bertrand
Guillot. Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a rien qui ne puisse dire qu'effectivement quelque chose subsiste au cours du temps dans de l'eau. Aucune empreinte, rien du tout. Tout reste transitoire et fugitif et sur un ordre de grandeur qui est de l'ordre, comme je vous dis, de la picoseconde, voire de la nanoseconde, et c'est tout.
Nicolas Lévy ?
Oui, c'est une question qui ne fait plus du tout débat chez nous, en fait.
Mais comment expliquer que cette question qui ne fait plus du tout débat est elle-même une mémoire assez longue, en tout cas une survie dans l'imaginaire collectif qui fait qu'on on pense que la mémoire de l'eau, c'est quelque chose de réel, qu'on nous cache des informations, que... Comment est-ce qu'on explique ça ?
Il y a une version fantasmée de la science. Et ça, nous, on a beau militer contre, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, on a l'impression que le scientifique...
Oui, le magique revient très vite, toujours, même dans la science.
Ce genre de côté un peu enchanteur, un peu alchimiste. Et...
Bien sûr.
Un dernier mot sur l'état aujourd'hui actuel des recherches. Est-ce qu'il y a un domaine dans les nombreux champs de recherche dans lesquels que nous avons évoqué au cours de cette heure, où vous attendez aujourd'hui un résultat particulier, quelque chose qui vous dirait, ça y est, on a enfin percé l'un de ces nombreux comportements étranges de l'eau, Nicolas Lévy ?
Mais là, en ce moment, les hot, vraiment ce qui est très, très porteur, c'est de comprendre comment l'eau s'arrange autour de biomolécules. Donc, par exemple, des interactions médicamenteuses. Jusqu'à présent, on pensait que lorsqu'on mettait un médicament dans le corps, bien sûr qu'il y avait de l'eau, mais on pensait que c'était juste le solvant habituel. Et en fait, non, on se rend compte que ça a un enjeu essentiel, que l'eau, dès qu'elle est proche de protéines, d'ADN, etc., elle se comporte pas du tout comme l'eau normale. Elle a des comportements, une viscosité plus forte, elle est ralentie, elle n'a pas les mêmes diffusions, elle va moins vite. Et voilà, il y avait un peu tout ça, c'est là-dedans que...
Bertrand Guillot, pour conclure ?
Oui, pour conclure, oui, l'eau met de l'huile dans les rouages de la biologie, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que finalement, même si ce n'est pas l'élément essentiel du fonctionnement biologique, elle en est un rouage absolument déterminant.
Est-ce que justement, dans ces champs de recherche-là, il y a quelque chose auquel vous vous intéressez plus particulièrement, un domaine, un endroit où vous attendez justement une avancée, une publication, une découverte importante ?
Il y a une chose aussi, c'est que du point de vue expérimental, il y a quand même des développements à l'heure actuelle, notamment sur tout ce qu'on appelle les spectroscopies ultra-rapides, femtosecondes et tout, où on peut suivre maintenant le mouvement, effectivement, presque molécule par molécule, sur des échelles de temps effectivement moléculaires, c'est-à-dire picosecondes, femtosecondes. Et là, effectivement, on va pouvoir voir finalement la cinématique du mouvement de l'eau, justement, près de parois, près des protéines, voire près des acides nucléiques.
Et oui, expliquer, voilà,
c'est vraiment là, en fait. Là, pour l'instant, nous, on arrive à le voir en simulation, mais sur des brins d'ADN, sur des morceaux d'ADN. Ce qu'on peut pas faire encore pour des raisons de taille de calcul numérique qui prendrait trop de temps et on n'en a pas la puissance actuelle, c'est de le voir à plus grande échelle, c'est-à-dire sur une molécule d'ADN entière, comment est-ce que l'eau réagit vraiment autour de cette molécule ? Là, c'est vraiment l'enjeu.
Pour conclure l'émission, puisqu'il est déjà 16h53, on va retourner dans notre grande bibliothèque des sciences avec le physicien Claude Guttmann, qui partage aujourd'hui avec nous un extrait de l'ouvrage qui a le plus marqué sa carrière scientifique.
La bibliothèque des sciences.
Bon, alors ça, il s'agit de la lettre de Newton qui est envoyée au Philosophical Transactions of the Royal Society en 1672, on ne sait pas si c'est 1672, mais ce n'est pas très grave. Et il fait sa première expérience sur ce qu'il appelle le phénomène des couleurs, et son interrogation, après avoir fait quelques expériences, des mesures sur ça. Et il est évident qu'il a l'intuition que c'est la lumière qui est décomposée, et que ce n'est pas une propriété intrinsèque du prisme, ce que c'est autre chose. Et à ce moment-là, il parle de ce que je me mets à lire ce que dit Newton. Il dit que la levée graduelle de ses intuitions me conduisit finalement à l'expérimentum crucis, qui était celle-ci. Je pris deux écrans et placé l'un d'eux très près derrière le premier prisme à la fenêtre, en le munissant d'un petit trou par où pouvait passer la lumière qui aboutissait sur le deuxième écran que j'avais placé à 12 pieds de distance, en ayant pris soin d'y percer aussi un petit trou pour qu'une partie de la lumière incidente le traverse. Je plaçais alors un autre prisme derrière le second écran, de façon à ce que la lumière passant à travers les deux écrans puisse aussi le traverser et soit ainsi de nouveau réfractée avant d'arriver sur le mur. Ceci fait, je pris dans ma main le premier prisme et le fit tourner lentement autour de son axe afin de faire passer les diverses parties de l'image projetée sur le second écran successivement à travers le trou de cet écran, de façon à me permettre d'observer les positions sur le mur où le second prisme les réfracte. Et je vis par la variation de ces positions que la lumière déviée vers l'extrémité de l'image vers laquelle la réfraction due au premier prisme l'a placée subissait dans le second prisme une réfraction considérablement plus grande que la lumière déviée vers l'autre extrémité. Et ainsi il apparut sans nul doute que la vraie cause de l'allongement de l'image était la suivante: la lumière consistait en rayons différemment réfrangibles qui, indépendamment de leur différence d'incidence, étaient selon leur degré de réfringence transmis vers les différentes parties du mur. Quand j'eus compris ceci, je laissai de côté mes travaux de polissage de verre mentionnés plus haut, car je voyais que la perfection des lunettes astronomiques était jusqu'ici limitée non tant par le besoin d'éléments parfaitement réalisés selon les prescriptions des auteurs de l'optique, ce que tout le monde pensait jusqu'alors, que parce que la lumière était un mélange hétérogène de rayons différemment réfrangibles, de sorte qu'un verre parfaitement taillé pour faire converger une certaine sorte de rayon en un point ne pourrait y faire converger les rayons de même incidence sur le même milieu, mais qui seraient aptes à subir une réfraction différente. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'immédiatement, il comprend immédiatement l'aberration chromatique des lentilles. Personne n'y avait pensé avant. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est la marque d'un génie absolu. Parce qu'au fond, il a fait la décomposition des lumières. Il voit immédiatement que ça entraîne l'aberration chromatique. C'est quelque chose qu'on connaît maintenant, contre lequel on lutte par des méthodes optiques, etc. Mais c'est fantastique. Et un peu plus loin dans le texte, je ne peux pas lire tout le texte, mais après, il dit qu'il faut donc faire un télescope avec un miroir, parce que le miroir, lui, n'a pas d'aberration chromatique. C'est fantastique. C'est cette façon de penser à tant de choses.
Voilà, la Bibliothèque des sciences de Claude Guttmann, que vous pouvez retrouver, comme toutes les émissions, sur le site franceculture.fr, que vous pouvez podcaster à l'envi. Hein. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous podcaster chaque mois, ça se confirme, ça nous fait très plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous la bonne parole scientifique. C'est important. Merci beaucoup, Nicolas Lévy. Merci beaucoup, Bertrand
merci
Guillot. Je
précise
que Bertrand Guillot, hein, vous avez signé un article dans ce livre L'eau à découvert, qui est publié au CNRS Éditions sous la direction de Agathe Zen, Catherine Jandel et Rémi Mosséry. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Eve Etienne et Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique et Paul Simonacci au droit d'auteur. Et demain, venez donc nous voir au salon Livre Paris. Nous serons en direct du stand Radio France et en public, donc avec vous, pour parler de l'édition en science-fiction avec Marion Mazorek du Diable Vauvert, Pascal Godbillon de Folio SF et Emmanuel Tricoteau d'Exofiction chez Actes Sud. Dans quelques secondes, quatrième et dernier épisode de la série documentaire consacrée à la beauté aujourd'hui au syndrome de Stendhal par Élise Andrieux et Perrine Cavran. On se retrouve donc demain à 16h en direct du salon Livre Paris, venez nombreux, jusqu'à preuve du contraire.